Quand je suis arrivé et que j'ai retrouvé mon Dominique, je me revois encore. Nous étions dans les couloirs de l'ancien, des anciens bâtiments de Toulouse-Pyrénées, tu sais, sur les allées Jean-Jaurès.
Oui, bien sûr.
C'était poussiéreux, c'était moche comme tout. On était là sur un banc et je lui dis, tu vois, on va reprendre nos émissions, mais on va. Et moi, je t'amène, j'ai une pièce, je vais te l'écrire, et tu pourras partir sur les routes. Il me dit, oh, tu sais, hein, ça marche plus, hein, le théâtre, c'est fini, hein, on ne reçoit plus une demande. Mais je lui dis, mais je ne suis pas des couillons, mais presque. Mais c'est parce que tu n'as rien. Ils ne t'ont pas vu en catinou. Tu n'avais rien à leur proposer que des histoires, mais ils ne t'ont pas vu en catinou. Avec catinou, ça va tout changer. Ben, après, bien entendu, ils l'ont mise en répétition, cette pièce. Et lorsqu'on l'a donnée pour la première fois, la première mondiale, ou la première fois, on a vu vraiment Dominique dans ce rôle maintenant fixé, une pièce vraiment fixée. Parce que, bon, même quand je l'ai vu en travesti, ben, ce n'était pas un personnage fixé. Il n'avait pas encore le truc avec le castagnon, tu vois, des petits détails comme ça, il n'avait pas le corsage fleuri. Fait, quand il est venu, le personnage, moi je l'avais fixé déjà par le croquis. Et ça a permis d'ailleurs que quand Dominique est mort, après, on a pu le refaire, quand il l'a fait revivre par le dessin. Les gens l'ont dans la tête par ça. Alors, ils mettent en répétition, et au premier jour d'avril, on va à Verfeil, sous la halle, parce qu'il n'y avait pas de salle des fêtes à l'époque, nulle part. Il y avait quelques théâtres, dans des patelins comme Villefranche de Rouergue, tu vois, à Gênes, les Histoires de Roche, mais dans les patelins, tu n'avais pas de salle des fêtes. Tu avais des garages qu'on transformait en salle des fêtes, des grandes pièces qui pouvaient servir, enfin, mais rien. Alors, on va donc sous la halle à Verfeil. Il y a des endroits où il y avait des halles, on jouait sous les halles. Alors, sous la halle de Verfeil. Mais sachant que le personnage à la radio, il y avait déjà 3-4 mois, il était reparti plein tube. Alors, plein tube. Plein tube. Alors, tu n'entends plus qu'il y avait eu, je crois que c'était le deuxième ou le troisième. Sketch que j'avais fait pour redémarrer, c'était le match. Demain je cède, le match de rugby. Demain je cède contre les Wallabies. Tu vois? Et alors là, c'était entièrement sonorisé. Tu vois, une ambiance de match, tu sais, les gens qui gueulaient, les coups de sifflet, les trucs comme ça, et les commentaires de Catino. C'était basé uniquement sur ça. Enfin, jusqu'à la fin, on est entré sur le terrain. Pour faire le ménage. C'était Jacques Coutier qui a arbitré. Et on allait lui faire des misères. Enfin bref. Et ce match de rugby, mon ami, c'est inouï, l'impact que ça a eu, tu vois. Uniquement parce que c'était tout sonorisé. On est dans une ambiance. Tu vois. Alors donc, c'était reparti sur les chapeaux de roue. Et alors, on arrive à Verfeil. Qu'est-ce que ça va donner ce soir? C'est quand même la première. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, bon. Première déjà, est-ce que les gens vont venir? Alors, quand on arrive, alors qu'on était déjà en avance, quand même, on n'est pas arrivé à 9h pile, on était arrivé, mettons, mais 3 quarts d'heure, pas avant, pas plus, hein, le temps qui se prépare, ben, c'était pas tellement loin. La ville est couverte de voitures. Ah, la ville, alors ça, c'est bon ici. Et quand on entre, pour traverser, pour aller derrière dans les coulisses, là, elle a déjà archicombe une demi-heure, 3 quarts d'heure avant l'heure. Déjà assis jusque sur la scène. Alors, t'as autant te dire, les gars, ils étaient un peu tendus derrière. Alors, ça ne loupe pas. Alors, on démarre. Alors, il y avait toute une scène qui démarrait. Il y avait une discussion, ça s'appelait la cloche de Maigeseb, c'est une histoire de cloche. D'ailleurs, moi, je l'avais reprise maintenant pour les types qui veulent faire un film. Le scénario étant celui-ci, les cloches sont bénies, tu sais, pour écarter les orages, pour protéger le village de toutes les catastrophes. Or, cette cloche a été fêlée le jour où Jacuzzi, qui était le sonneur de cloche, avait bu un peu trop de couteau de vin, il avait secoué trop fort. La cloche est fêlée, elle ne protège plus rien. La bénédiction a foutu le camp par la fente, c'est l'explication que donne le Catinou. Et alors, le village, il n'a que des emmerdes, des petites emmerdes, mais tu vois, les couvaisons qui ne marchent pas, le truc, etc. Bon, enfin, il n'y a que des embêtes. Et alors, il y a le démarrage de la pièce, il y a le curé et le maire qui se disputent sur la place pour savoir quelle est la cause de tous ces emmerdements, et chacun se renvoie la balle. L'autre qui dit, c'est vous avec votre politique, vous mettez la zizanie dans les esprits, et l'autre, c'est vous avec vos croyances là, tout ça, si vous n'êtes pas avec vos bénédictions de cloche, ah ben tu vois, ça parle comme ça. Et puis alors, bon, et alors, à ce moment-là, arrive le Jacuzzi, sonneur de la cloche. Alors, il l'attrape, et alors lui, il se fait sonner les cloches. C'est à dire, pourquoi il a gagné, tu vois. Et puis tout d'un coup, j'amène petit à petit le personnage, on entend en coulisses, Catinou qui arrive, Jacuzzi, Jacuzzi, Wuntes. Alors là, un murmure dans la salle déjà. Et puis mon Dominique, il déboule sur la scène. Boum, 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 Jacuzzi, Wuntes. Mon pauvre ami. Écoute, dans la salle, j'ai jamais entendu un cri comme ça. Mais alors, inouï, inouï, inouï. On a dû l'entendre de Toulouse, ce cri-là. Et alors, ça a été gagné, bien entendu, ça a été fantastique. Et alors, à partir de ce moment-là, mon Dominique, il ne savait plus où donner de la tête, mon ami. Et alors, comment on ne savait pas si ça durerait? Tu sais, on n'avait pas fait des plans. On ne faisait pas des plans, des prévisions sur des années. On marchait à l'année, à l'année. Mais plus on allait, plus ça marchait fort. Alors bon, alors on suit le train. Mais tiens-toi bien, mon Dominique. Donc, il ne savait pas si ça allait durer ou pas durer. Disant, bon, il y a là une belle occasion de se perdre un peu de fric. Parce que où qu'il aille, d'abord, quand il allait quelque part, il se faisait bien payer. Mais oui, parce qu'il allait dans beaucoup d'endroits de lui-même, c'est lui qui rentrait directement le fric. Alors bon, c'était pas la recette du Capitole, ni de, tu vois, mais ça n'a l'air de rien. Tu comprends? Pour un type qui était potard, qui devait faire deux fois le SMIC à tout péter, il gagnait le SMIC tous les soirs. Tu comprends? Mais avec 300 personnes, 400 personnes, tu. Et alors mon ami, lui, il a bombé. La première année, il a fait 300 représentations. Je ne me demande même si pas la première ou la deuxième, il en a même fait les 365. Parce qu'il doublait, tu sais, il faisait des matinées le samedi, il faisait des matinées le dimanche. Enfin, il faisait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Mais ce rythme-là, bon, il n'avait pas le tenir comme ça. Mais il l'a tenu après, tiens-toi bien, pendant près de 20 ans, ça a duré 17 ans.
Versailles, c'était quelle date? Est-ce que tu t'en souviens?
Oh, la date précise, c'était en avril.
Mais l'année.
Ah, mais c'est l'année, ça c'est l'année 48.
48.
Et moi, je suis rentré l'automne 47, l'hiver j'ai écrit cette pièce, donc j'avais toute la trame, mais je l'ai écrite à Toulouse. Je l'ai écrit à Toulouse, place du Puy, dans un appartement où on partageait avec quelqu'un, parce que c'était une époque héroïque pour les appartements. Alors qu'on donnait des matchs de catch dans la halle.
Oui.
Pendant que j'écrivais ma Catinou, j'entendais les gens, tue-le, crève-le, bouffe-lui le. C'était pas croyable. J'étais là, écoute, il n'y avait que la rue qui me séparait de... Alors, oui, alors. Après, tiens-toi bien, pendant 17 ans, ça a duré, ça n'est jamais tombé pendant très longtemps, disons, sur les 17 ans, pendant 10 ou 12 ans, ça a fonctionné à 250 représentations par an, Quand je lui racontais ça l'autre jour, je lui rappelais ça à Sarah-Jean. Il dit, tu sais, mais il me dit, il fonctionnait. J'ai dit, ben, il fonctionnait. Écoute, les premières années, 300 représentations, 350 même représentations. Puis après, c'est tombé à 250. Et ça a tenu ça pendant une douzaine d'années. Après, ça n'est jamais tombé en dessous de 200 représentations par an. Mais que pour une troupe de théâtre, c'est inimaginable. D'ailleurs, figure-toi, il y avait une brave femme, parce qu'il y a des gens qui se sont succédés, ça n'a pas toujours été la même troupe. Il y en a qui ont fait toute leur carrière là. Et alors, c'est assez extraordinaire. Parce que ça, moi, chaque fois que je suis amené à l'expliquer, ce qui était extraordinaire, c'est que cette troupe, ils étaient huit. Huit qui partaient dans un petit car que Dominique conduisait lui-même. Bon, il y avait des Catinous sur les côtés. Et quand il passait dans les routes, il disait ouais, ça. Bon, bien souvent, mais ils s'arrêtaient pour leur dire bonjour. Reçus comme des rois partout. Et alors, il y a eu une femme, moi j'avoue que je n'en avais pas gardé le souvenir. D'ailleurs, moi, tu sais, je n'allais les rejoindre que lorsqu'ils étaient tout près ou qu'ils passaient par là. Et bon, il y avait une femme, c'était la femme d'un type qui s'appelait Roussillon, quelque chose comme ça, qui a pris la succession de Deschamps pour faire le festival de Carcassonne.
Jean-Paul Roussillon.
Oui, Roussillon. Et alors, sa femme, un jour, me débarque à la dépêche. Elle me dit, Monsieur Mouly, vous ne me connaissez pas. Je dis, Madame Roussillon, j'ai fait une saison de tournée avec Dominique. J'en garde un souvenir ébloui. Pas pour des comédiens. Tous les soirs, ça le compte. Tous les soirs, reçus comme des amis d'abord, partout. Les gens, parce que il n'y avait pas, tu sais, la distance qu'il y a entre la vedette et le truc. Dominique, quand il arrivait dans des patelins, tout le monde l'embrassait presque. Bon. Et alors, ce succès, ça avait marqué sa carrière de longtemps, c'est pour te dire. Mais alors voilà, alors ça a duré quand même 17 ans. Mais alors, ce qui est extraordinaire, ils ont donc vécu, ces gens-là, alors là, complètement professionnels, hein. Pas question, tous ceux du départ, c'était des gens qui étaient des amateurs. Il y en a le premier Jacouti qui est monté sur scène. Il y avait des Jacouti, je t'ai dit tout à l'heure, mais pour la radio, le physique ne comptait pas. Bon, alors, c'était notre ami Franco qui avait fait, et qui a toujours fait le Jacouti à la radio. Bon. Mais pour la scène, alors là, petite anecdote marrante. Quand il faut, bon, pendant cet hiver, où moi je leur écris des pièces, où ils se mettent en répétition, avec Dominique, on se trouve dans un magasin. C'était un hall qu'avait la République, en face de cet immeuble qui a brûlé, tu sais, en bas de la rue Alsace, là. Et maintenant, il y a des pâtisseries, là, en face, il y avait un hall. Et c'était la République avait un rôle. Et j'étais là, moi, avec Dominique, je vois comment enfin, se trouver là. Et il me dit, le problème, tu sais, merde, je suis embêté pour trouver un Jacouti. Parce que toi, tu l'as dessiné, tu as fait ça, mais pour me trouver quelqu'un qui... Moi, ça va, mais le type, là, il faut qu'il, quand même, il ne soit pas trop éloigné de cette silhouette-là. Alors, je ne sais pas. Alors, écoute, quand je te dis le hasard, alors, on parlait de ça, donc on me dit, il est là. Où? Quoi? Le Jacouti, c'est lui qui passe là. Et effectivement, passait un type qui s'appelle Labat. Il s'appelait Labat, il se faisait appeler Le Bat, sur scène. Il lui dit, Batou, ils se connaissaient tous, qui faisait, tu vois, l'artiste amateur. Et alors, ça y est, mon Batou fait le Jacouti. Et on n'a jamais eu un Jacouti comme celui-là. Il avait le physique à côté de Dominique. Il ne pesait pas 50 grammes. Et alors, en plus, alors, écoutez, il n'y pouvait rien, le pauvre vieux. Mais il était déjà, il commençait à faire un peu de Parkinson, tu sais. On lui donnait des calmants. Alors, il était tout le temps, il était comme ça. Et quand le type était devant, on rigolait. Mais lui aussi, il le prenait bien. Mais les gens disent, vous savez, un jour, il est formidable. Il est formidable. On leur a jamais dit que cet air qu'il avait comme ça, c'était pas dans la composition, c'est qu'il était comme ça. Il a dit, Évidemment, ça faisait un panda avec Dominique qui pétait le feu. Dominique, c'était un paquet de pétards. Tu sais, pout, pout, boum, boum, boum. Alors, il pétait le secouer. Alors, évidemment, il y avait des effets comiques, naturellement. Alors, dans les tables du Nord, tu sais. Et alors, ce qui était marrant, ce qui est intéressant, c'est que je te répétais, c'est que ces gars-là ont vécu dans cette troupe, 8 personnes, pendant près de 20 ans. Professionnellement, bien vécu, correctement payé et tout, sans un poil de subvention de nulle part. Ça n'a coûté rien aux contribuables français. Alors qu'aujourd'hui, moi je vois la rampe là-bas, sinon pas 200 briques en début de saison pour monter leur spectacle, ils ne partent pas. Ils attendent d'avoir ramassé. Mais nous, ça n'a jamais existé. Ça. Et je te dirais, bon. Alors, on n'a jamais eu donc la moindre, mais pas un fifrelin, hein, rien. La seule chose qu'on a eu, ça compte, c'est l'appui de la dépêche qui fournissait les affiches. On peut appeler ça, c'est une subvention si on veut, mais enfin, qui fournissait les programmes, parce qu'évidemment, il y avait son nom. Et les affiches aussi. La dépêche vous présente, tu vois. Bon, alors donc. Et puis c'est tout. Attends, et puis évidemment, les annonces. La cantine, ce soir, avec tel patelin, ça a aidé. Mais enfin, on a des subventions pour faire des décors, pour faire des choses comme ça. Pas d'un rang. Jamais. Et bon, ça a marché très bien, tout le temps. Ça a marché de son succès, quoi. Et voilà, cantine, tu vois. Voilà.